Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je vous rappellerai que nous sommes en ce moment occupés à expliciter ce qui constitue le caractère continuiste de la culture ritualiste en chinois Li Jiao, c'est-à-dire donc littéralement l'enseignement des rites de la Chine ancienne et impériale par opposition à la rupture introduite à l'ère moderne par la catégorie de religion, notamment appliquée au confucianisme. Alors, lors des dernières séances, nous avons vu comment s'est constituée à l'origine cette culture ritualiste et comment elle s'est à la fois formulée et formalisée entre la fin de l'Antiquité pré-impériale et le début de l'ère impériale, c'est-à-dire entre la fin de la dynastie Zhou et la dynastie Han. Donc je vous projette en guise de rappel donc ce tableau de repères historiques où donc vous avez en haut du tableau ce qu'on a appelé donc les trois dynasties de l'Antiquité, la troisième étant cette dynastie Zhou qui a occupé en gros donc le premier millénaire avant l'ère chrétienne et donc qui se termine sur cette période des royaumes combattants, laquelle ensuite en fait a permis à la dynastie Qin d'émerger, puisque Qin a en quelque sorte unifié donc l'espace chinois de l'époque. Et au fond, ce qui est plus important pour nous, c'est cette dynastie Han, donc qui a occupé les quatre siècles, commodément à cheval pour nous, deux siècles avant et les deux siècles du début de l'ère chrétienne. Donc, cette formulation de la culture ritualiste qui va de pair avec une formalisation s'est opérée dans un ensemble de compendia portant sur les rites sous toutes leurs formes, compendia datés essentiellement de la période Han précisément, comme le Li Ji, le traité des rites, ou le Da Dai Li Ji, le traité des rites de Dai l'Ancien, dont nous avons lu ensemble des extraits. Mais nous trouvons également cette formulation et cette formalisation dans des ouvrages attribués à des maîtres individuels comme Maître Xun, le Xunzi, ouvrage qui date de la toute fin de la période pré-impériale, c'est-à-dire donc aux environs du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et nous en avons lu également des extraits. Alors, l'aspect formalisé de ces textes apparaît dans le parfait continuum établi donc entre, d'une part, les forces cosmiques, comme le ciel-terre, le yin et le yang, le soleil, les étoiles, la lune, etc. Ensuite, les êtres relevant du surnaturel, ou ce que les anciens romains appelleraient le domaine du numineux. Alors là, je pense en particulier aux Guishen, donc aux démons et aux esprits, aux Siling, c'est-à-dire les quatre créatures surnaturelles. Et enfin, tout ce qui recouvre le champ des activités humaines. Donc vous avez en fait ce continuum qui traverse donc le cosmos, le surnaturel, ou le, si vous voulez, tout ce qui est suprahumain, et l'humain. Alors ce continuum a trouvé sa forme et sa formulation la plus frappante dans cette fameuse triade cosmique, ciel, terre, homme, tian di ren, dont il est éminemment question dans le Xunzi, donc cet ouvrage attribué à Maître Xun, que nous avons vu la dernière fois. Alors, cette triade a connu une fortune telle qu'elle a donné lieu à une étymologie, cela va sans dire complètement fantaisiste, de ce caractère que vous avez ici. C'est un caractère qui se prononce, comment dire, dans la prononciation moderne Wang. C'est d'ailleurs le nom de mon époux défunt. C'est un nom que je porte aussi. Wang, qui signifie le roi, et dont une source d'époque Han explique la graphie. Alors donc là, encore une fois, nous avons une sorte d'étymologie fantaisiste, mais non moins parlante. Donc la graphie est expliquée par donc les trois traits horizontaux qui représenteraient donc le ciel en haut, la terre en bas et au milieu l'homme, et le trait vertical qui relie donc ces trois traits horizontaux et qui représenterait donc le roi ou le souverain, c'est-à-dire donc une sorte d'axis mundi qui relierait les trois ordres cosmiques. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette étymologie, mais ici c'est utile de rappeler en quoi en fait cette étymologie résume en quelque sorte cette idée donc de la triade cosmique. Alors dans cette triade, chaque puissance a son rôle propre. Donc le ciel en haut recouvre, la terre en bas porte, et l'homme au milieu donc parachève l'œuvre cosmique du ciel-terre. L'homme au milieu qui, en même temps, a pour, on pourrait dire, emblème ou incarnation iconique, emblématique, justement, le roi. Donc c'est en cela que l'homme au milieu parachève l'œuvre cosmique du ciel-terre. Et c'est précisément dans le Xunzi qu'on trouve l'affirmation la plus puissante du rôle de l'homme et de son autonomie, pourrions dire, par rapport au ciel. Et c'est ainsi que le Xunzi assigne au rite une origine proprement humaine, comme nous l'avons vu la dernière fois dans cet extrait du chapitre 19, qui, je vous le rappelle, est entièrement consacré au rite. Il s'intitule en chinois Li Lun. Donc cet extrait qui livre une conception anthropologique de l'origine des rites. Je vous rappelle rapidement ce passage uniquement en traduction. Je vous redonne quand même le texte ici. Donc, quelle est l'origine des rites ? Réponse : l'homme naît avec des désirs ou des besoins. S'il n'obtient pas ce qu'il désire, il n'a de cesse qu'il n'y parvienne. S'il cherche à satisfaire ses besoins sans se donner de mesures ni se répartir des limites, et là vous aviez cette fameuse notion de fun que vous avez ici, avec cet élément qui vous représente la lame du couteau. Alors, ce n'est pas le couteau canif que vous pourriez imaginer, hein, c'est le, vous savez, ces couteaux pour découper la viande que vous trouvez encore dans les cuisines des restaurants chinois, hein, ou dans les cuisines chinoises en général, hein, donc ces couteaux assez larges. Donc, si l'homme cherche à satisfaire ses besoins sans se donner de mesures ni se répartir des limites, il y a nécessairement lutte pour la survie. La lutte pour la survie provoque le désordre, lequel entraîne l'épuisement des ressources. Notez la modernité du propos. Hein. Quelques 25 siècles plus tard, nous en sommes encore à peu près au même point. Hein. Les rois de l'Antiquité, par aversion pour le désordre, établirent rites et sens moral en vue d'une répartition, de nouveau ce mot fun, qui assouvirait les désirs des hommes et répondrait à leurs besoins de façon que les besoins n'épuisent pas les ressources et que les ressources ne fléchissent pas sous le poids des désirs, besoins et ressources se développant ainsi par leur soutien mutuel. Telle est l'origine des rites. Donc là, nous avons véritablement quelque chose qui relève d'une analyse anthropologique de l'origine des rites, qui ne doit rien donc à un ordre transcendant quelconque. Alors, ce même chapitre 19 du Xunzi, dont on trouve un passage exactement parallèle dans le traité des rites de Taï l'Ancien, assigne trois fondements aux rites. Comme nous l'avions vu, donc, ces trois fondements sont le ciel-terre, Tianti, qui est donc le fondement de la vie, les Xianzu, c'est-à-dire les ancêtres, qui sont donc le fondement de l'espèce ou de la famille, et enfin donc les Junshi, c'est-à-dire donc les souverains et les maîtres ou les princes et les maîtres, qui sont le fondement de l'ordre sociopolitique. Alors, dans les sources anciennes, puis dans les sources de la Chine impériale et jusque dans les pratiques contemporaines, on voit cette continuité entre le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et l'ordre humain. Et cet ordre humain se traduit à son tour donc en termes de culte ancestral, Xianzu. Dans la langue moderne, en fait, les ancêtres, on les désigne par un composant inversé. Hein, on parle très souvent de Zhu Xian plutôt. Donc, les ancêtres à qui est rendu donc un culte, le culte ancestral. Ensuite, en termes politiques, par justement cette référence au prince, et en termes de transmission évoquée par le mot maître ici, c'est-à-dire cette transmission de maître à disciple. Donc aussi bien je vous rappelle toujours donc ce que nous avions vu sur cette tablette. Donc vous avez le ciel-terre et ensuite ces trois instances des activités humaines, c'est-à-dire l'instance politique, le prince, qin, donc la famille ou les ancêtres, et shi, donc les maîtres. Donc, aussi bien entre le cosmique et l'humain, il y a continuité, et à l'intérieur de l'ordre humain, il y a également continuité entre l'ordre politique, l'ordre familial et l'ordre de la transmission entre maître et disciple, hein, puisqu'il y a une sorte de relation analogique entre le prince et ses sujets, ou le prince et ses ministres, entre donc les ancêtres et leurs descendants, et entre le maître et ses disciples. Alors, il me paraît donc important de revenir un instant justement sur ce culte des ancêtres qui illustre très bien notre propos concernant donc justement ce caractère continuiste de la culture rituelle. Ce culte a occupé une place centrale dès la haute époque des Shang, donc au deuxième millénaire, donc cette dynastie qui a occupé à peu près la deuxième moitié du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. À cette haute époque, des cultes et des sacrifices étaient rendus à diverses puissances de la nature, telles que les fleuves, en particulier le fleuve jaune, la terre nourricière, certaines montagnes, comme vous le savez sans doute, certains pics ou certaines montagnes en Chine sont encore considérées comme sacrées. Il y a eu aussi des cultes destinés à des vents, des points cardinaux, mais la part la plus importante des sacrifices et des actes de divination était dédiée aux ancêtres royaux. Et ce culte aux ancêtres royaux apparaît remarquablement organisé, par contraste notamment avec le foisonnement véritablement prolifique des cultes réservés aux divinités naturelles. On a souvent dit que ce culte ancestral était peut-être issu d'un culte préhistorique des morts. Et pourtant, on s'aperçoit que ce culte ancestral ne se confond pas exactement avec un culte des morts. Alors certes, les ancêtres sont perçus comme des esprits résidant dans le monde des morts et susceptibles d'assurer ainsi une médiation avec les puissances surnaturelles. Mais, et c'est là le point important pour nous, les ancêtres, en même temps, maintiennent un lien organique avec leur descendance vivante. Donc, en tant que membre d'une communauté familiale, c'est ce que donc le texte du Xunzi appelait Lei. Par-delà, en quelque sorte, la frontière entre vie et mort, les ancêtres continuent à jouer un rôle au sein de cette communauté familiale, et c'est ainsi que leur statut dans la parenté garde tout son sens et toute son importance. En d'autres termes, les rapports qui lient les parents défunts aux vivants ne sont pas de nature très différente de ceux qui existent entre les vivants eux-mêmes. Il y a donc continuité, et j'insiste de nouveau sur ce terme, continuité entre les sacrifices dû aux ancêtres, que on pourrait éventuellement considérer comme proprement religieux, d'une part, et de l'autre, les codes rituels à respecter à l'égard des vivants. Donc, en tant même que phénomène religieux, le culte des ancêtres manifeste le groupe de parenté comme paradigme de l'organisation sociale. Et c'est sans doute pour cette raison que, au-delà de sa fonction proprement religieuse, le culte des ancêtres a contribué à l'élaboration d'une certaine conception de l'ordre social, mais aussi politique en Chine. Donc, nous avions vu dans le texte du Xunzi donc ce mot zhi, dont je vous avais dit qu'il il porte une connotation d'abord médicale, dans la mesure où il représente l'état, disons, d'équilibre optimal d'un organisme vivant. Et il a fini par désigner donc cet ordre qu'il faut donc qualifier de sociopolitique, parce qu'on ne peut pas dissocier donc, dans ce contexte chinois ancien, l'ordre social de l'ordre politique. En réalité, plus qu'un esprit de l'au-delà, l'ancêtre représente d'abord un statut, c'est-à-dire un rôle familial dans lequel il se fond presque au point de perdre toute histoire personnelle ou tout destin individuel. Et là, il y a un trait intéressant à noter, c'est-à-dire que l'ancêtre se trouve ainsi doté d'un potentiel mythique assez réduit, hein, puisqu'il n'est pas pris en tant qu'individualité. Et on s'est beaucoup interrogé sur la relative pauvreté des mythes dans la culture religieuse chinoise. En fait, cette relative pauvreté peut s'expliquer évidemment par l'occultation délibérée des mythes opérée par la tradition confucéenne, mais au-delà de cette occultation délibérée, la pauvreté des mythes pourrait bien s'expliquer aussi par la nature même du culte ancestral et de la conception des ancêtres, lesquels rendent perméable la frontière non seulement entre vie et mort, mais aussi entre humain et divin. Donc vous avez, et j'y insiste une fois de plus, donc un continuum en quelque sorte assuré par cette figure des ancêtres entre le monde des vivants et le monde des morts, entre le monde humain et le monde divin, et plus généralement donc entre le monde humain et le monde non humain, que ce monde non humain soit donc le cosmos, le surnaturel ou autre. Alors, pour les comparatistes, il y a eu là un processus qu'on a sans doute un peu trop hâtivement assimilé à l'évémérisme dans le contexte de la mythologie de la Grèce antique. Alors, l'évémérisme, c'est ce processus donc de métamorphose d'anciens humains en dieux ou en demi-dieux que l'on connaît bien justement dans le contexte de la mythologie grecque, alors que dans le contexte chinois, il s'agirait plutôt de la transformation de ce qui a été donc des mythes et des dieux en une histoire et en des êtres proprement humains. Donc ce processus, aussi paradoxal que cela puisse paraître, a éloigné la mentalité chinoise de la tendance grecque à l'anthropomorphisme. Vous remarquerez que dans les représentations iconographiques de la Chine ancienne, vous avez assez peu de représentations anthropomorphes. Donc, cette tendance grecque à l'anthropomorphisme tend à prêter aux divinités des comportements d'humains pris dans leur individualité, leur créativité et, pour tout dire, leur liberté. Si vous prenez les dieux grecs, en fait, ce sont donc on pourrait dire des êtres super-humains, en quelque sorte. Alors qu'à l'inverse, la divinité qui prend la figure de l'ancêtre, au lieu d'être douée d'une volonté arbitraire, voire capricieuse, est d'emblée perçue à travers son statut et elle est intégrée dans la vision d'un ordre familial sur lequel se fonde donc cette conception de l'harmonie sociopolitique. Alors, autant dire que, bien sûr, ici, nous sommes dans le domaine de la représentation et de la représentation idéalisée que nous donnent ces textes classiques. Évidemment, la grande question est de savoir en quoi ils se réfèrent à une réalité quelconque, si elle a jamais existé. Alors, les rites sacrificiels destinés aux ancêtres étaient ordonnancés de manière particulièrement précise et méticuleuse, voire quasi bureaucratique, qui apparemment ne laissait rien au hasard et encore moins donc à la fantaisie que l'on prête en général donc au culte destiné aux puissances surnaturelles. Les ancêtres dont si j'ose dire, les juridictions étaient susceptibles d'empiéter les unes sur les autres étaient classées par génération et par rang d'âge des sacrifices leur étaient offerts selon un calendrier extrêmement élaboré. Les divinations qui étaient afférentes justement à ce culte ancestral se bornaient à déterminer le nombre et la nature des victimes à offrir à tel ancêtre tel jour. Et vers la fin de la période Shang et à l'aube de la dynastie Zhou, c'est-à-dire donc aux alentours de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, le rôle de ces actes divinatoires se limitait même à informer les ancêtres qu'un sacrifice était en cours, en exprimant simplement le vœu qu'il n'y aurait ni faute ni malheur. En quelque sorte, les pauvres ancêtres étaient un peu, acculés au pied du mur, ou ils étaient vraiment les derniers à être informés, en quelque sorte. Donc, à bien des égards, la divination dans la Chine archaïque et antique ne cherchait pas tant à savoir si tel vœu serait exaucé ou non. Elle ne cherchait pas tellement à deviner, puisque c'est le propre du devin, à deviner l'intention des esprits, mais en fait elle cherchait plutôt à s'assurer que le vœu serait bel et bien exaucé. Alors, c'était au fond, cet acte divinatoire était une manière de faire connaître aux esprits les désirs des humains. Et au fond, de trouver une assurance dans le fait que les esprits en avaient pris connaissance. Donc, il y avait ce mode de communication donc, avec quelque chose de suprahumain, d'au-delà de l'humain, puisqu'on s'adressait à des ancêtres morts qui étaient censés donc, pouvoir assurer une médiation auprès des puissances surnaturelles. Mais en fait c'était une communication, c'est peut-être un peu abusif de parler d'une communication de type bureaucratique, mais c'était presque un peu ça. Hein. Alors, le devin n'interrogeait pas à proprement parler les esprits, mais scrutait leur réaction à l'offrande sacrificielle. Donc l'art du devin consistait à obtenir non pas une déclaration à une question posée, hein, une réponse quelconque, hein, à la façon de la Sibylle ou de la Pythie, hein, dans le contexte que nous connaissons plus familièrement ici, hein, mais le devin cherchait à obtenir donc un signe révélateur des incidences mystérieuses d'un acte supposé. Donc, telle semble bien être la fonction incantatoire de l'acte divinatoire qui donc impliquait une opération manuelle, matérielle, extrêmement laborieuse et compliquée, qui consistait donc à pratiquer des perforations dans des carapaces de tortue ou des os de, comment dire, des clavicules, je trouve plus le mot, enfin des clavicules de bœufs, de bovins. Donc ces actes divinatoires donc avaient pour fonction demander donc des oracles. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, la divination telle qu'elle se présente dans la dernière partie de cette dynastie Shang, donc, n'est pas la pratique d'une interrogation sur l'inconnu, elle est au contraire faite de questions que l'on pourrait qualifier de rhétoriques sur un domaine en quelque sorte balisé à l'avance, ce qui confère aux oracles un caractère non pas prophétique, mais rituel. Alors, l'éminent sinologue Léon van der Mersch, dont vous avez le nom ici, en haut de la diapositive, j'ai eu la chance insigne de l'avoir comme l'un de mes maîtres en études chinoises. Donc Léon van der Mersch a consacré une bonne partie de ses recherches à ce qu'il a appelé la mutation rituelle de la conscience religieuse dans la Chine antique. Et cela apparaît dans le détail dans cet ouvrage qui a fait date véritablement, qui s'intitule Wang Dao, ou la voie royale. La voie royale étant exactement la traduction donc de Wang Dao, où vous retrouvez donc ce mot Wang, le roi, hein, et le mot Dao, donc la voie du roi. Sous-titre, recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque. Un ouvrage très touffu, je ne le recommande pas exactement aux débutants, mais en deux volumes, paru donc aux éditions de l'École française d'Extrême-Orient, donc premier volume en 1977 et second volume en 1980. Donc, dans cet ouvrage, Léon van der Mersch a fait les constatations suivantes. Alors, du fait que le culte des ancêtres était pratiqué par le roi-père ou le chef de clan, en quelque sorte, sans recours à une caste sacerdotale spécialisée, hein, c'est-à-dire sans recours à un clergé spécialisé, et du fait que la divination, à l'origine opérée accessoirement après le sacrifice, on vient à le précéder et à en régler par avance les modalités, on assiste à une disjonction croissante entre l'acte de portée strictement religieuse qu'est le sacrifice, d'une part, et de l'autre, la divination investie d'une fonction et de forme rituelle. Alors, cette tendance à la formalisation rituelle, amorcée vers la fin des Shang, ne fait que se confirmer dans la phase de transition vers les Zhou, donc encore une fois, en gros, autour de l'an 1000 avant l'ère chrétienne. Alors, dans ce sens, la culture qu'on pourrait qualifier de plus séculière des Zhou peut être considérée comme l'héritage rationalisé de la culture magico-religieuse des Shang. Donc là, Léon van der Mersch avance l'hypothèse justement d'un processus de ritualisation qui va de pair avec une forme de rationalisation des formes qu'il place vraiment à une date très précoce, hein, c'est-à-dire donc vraiment déjà dans la haute antiquité. Et l'étude des témoignages oraculaires, c'est-à-dire donc des témoignages laissés par les actes de divination, laisse à penser que les événements néfastes tendaient à être interprétés non plus comme produits de la volonté capricieuse, voire maligne, des ancêtres défunts, mais comme résultant des actes de leurs descendants vivants. Il était dès lors possible de rendre compte justement de ces événements par un ensemble cohérent de valeurs qui tenaient à la fois du religieux et du rituel. Alors, cette communication directe, toujours possible, entre le monde des puissances surnaturelles qu'étaient les ancêtres et le monde des vivants, est peut-être à l'origine de cette fameuse continuité que la pensée chinoise antique a fini par établir entre le ciel et l'homme, c'est-à-dire donc entre, disons, l'humain et tout ce qui peut le dépasser. Cette continuité qui caractériserait donc le culte des ancêtres, on la retrouve dans le culte, enfin, ou plus exactement, donc les rites funéraires dans la Chine postérieure, c'est-à-dire dans toute l'histoire impériale donc de la Chine qui a couvert à peu près donc les deux millénaires de l'ère chrétienne. Alors, je voulais à ce sujet vous citer quelques extraits d'un article rédigé par Marcel Mauss, dont vous avez le nom ici sur la diapositive. Marcel Mauss, qui est très représentatif de l'école sociologique française et qui a rédigé cet article qui s'intitule « Rites funéraires en Chine », qui est paru dans la revue « Années sociologiques » en 1899. En fait, cet article est une recension, un compte-rendu de cet ouvrage du sinologue néerlandais, donc Jan Jacob Maria de Groot, donc qui a vécu entre 1854 et 1921. Et c'est une somme, véritablement, de six volumes qui s'intitule the religious system of China, its ancient forms, evolution, history and present aspect, manners, customs and social institutions connected therewith. Donc, très long titre, à la, disons, à la mesure de l'ampleur du projet. Donc, le système religieux de la Chine, ses formes anciennes, son évolution, son histoire et son aspect présent. Manières, coutumes et institutions sociales liées donc à ce système religieux de la Chine. Donc, ouvrage monumental paru en 6 volumes à Leyde entre 1892 et 1910. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans cette énorme compilation donc de Roth, c'est que d'abord il s'agit de quelqu'un qui a fait son, comme on dirait maintenant, son terrain en Asie pendant de nombreuses années, hein, vers la fin du XIXe siècle, et qui a donc pu être témoin direct, oculaire donc, de la façon dont les formes religieuses fonctionnaient en contexte chinois, dans la société chinoise, avant donc tout le processus de modernisation occidentale, hein, qui a commencé à se mettre en marche au début du XXe siècle, hein, avec donc tous les processus de laïcisation, pour dire les choses sommairement, qui sont allés avec cette modernisation. Donc, De Roth, on pourrait dire, est un des derniers témoins européens, justement, de cet état des religions chinoises avant que on entre dans cette période de destruction systématique. Alors, Mauss commence sa recension dans ces termes. Dès le principe, je cite, « Dès le principe, nous trouvons la religion chinoise comme enserrée en un système de rites et d'idées sur lesquels, sans doute, les esprits ont travaillé, qui ont subi des vicissitudes diverses, des critiques philosophiques et des exagérations mystiques, mais dont le fond est éminemment traditionnel et collectif. » Aussi, M. de Groot, dans ses explications, fait-il toujours une place prépondérante au principe social, à la signification sociale des rites et des croyances. Donc Mauss, de toute évidence, en tant que sociologue, s'est intéressé donc à cet ouvrage de Groot parce qu'il y a cette dimension sociologique dans la mesure où de Roth parle non seulement donc des formes anciennes, de l'évolution historique, mais aussi de l'aspect présent, hein, c'est-à-dire contemporain, du système religieux chinois tel qu'il l'a vu à la fin du XIXe siècle. Alors, pour ce qui est donc des rites funéraires, Mauss donc résume la présentation donc de Roth décrivant donc ces rites tels qu'ils se pratiquaient donc dans la Chine de la fin du XIXe. Donc le mourant est placé sur un lit spécial au milieu du hall de la maison. Les parents sont présents. Dès la mort, on crie à la mort, on ouvre la fenêtre, et Mauss ajoute entre parenthèses, comme en certaines parties de l'Europe. Et les femmes lavent le corps. L'eau, comme les cendres qu'on mettra tout à l'heure dans le cercueil, est recueillie chez les voisins. C'est sans doute un acte de communion condoléatoire. Donc là, d'emblée, en fait, le mourant, hein, ou le mort, en quelque sorte, meurt au milieu de la famille et de la communauté du voisinage. On met à côté du cadavre une lumière afin de le protéger contre les principes obscurs. De nombreuses règles déterminent les vêtements que le mort doit porter, les objets qui doivent être mis dans la bière. L'ensevelissement, une fois accompli, des moines bouddhistes viennent et, à l'aide de sacrifices aux morts et de formules magiques, rappellent l'âme et la concentrent dans une tablette provisoire où elle va résider jusqu'à la confection de la tablette définitive. Alors ce moment du rappel de l'âme est très, très, très important, hein, au moment de la mort. C'est à ce moment que parents et amis brûlent devant le mort des quantités de monnaie fictive en papier. Cette monnaie était autrefois réelle et le rite avait pour objet d'enfouir le mort avec sa fortune. Enfin, la maison est purifiée par des exorcistes. Cela fait, la famille peut garder le mort chez elle jusqu'au jour marqué par l'astrologue pour l'enterrement. Même autrefois dans les familles de rang élevé, le mort était conservé à la maison et l'héritier lui présentait une offrande matin et soir. Ensuite vient l'enterrement. Le cercueil, qui est censé dangereux à manier pour des raisons magiques, passe le seuil, les pieds en avant, au milieu d'adorations et de sacrifices. Le cortège se forme, en avant des musiciens pour écarter les mauvais esprits. Puis, dans le même but, une image du dieu éclaireur de la route, le rapprochement s'impose avec les coutumes européennes. Alors ici, ce qui me frappe beaucoup, c'est que j'ai entendu des commentaires donc, de voyageurs européens en Chine, qui me disait c'est extraordinaire comme les Chinois sont différents de nous parce que ils ont l'air joyeux quand quelqu'un meurt dans leur famille parce qu'ils ont vu justement ces cortèges funéraires précédés de musiciens alors que là vous voyez que le rôle des musiciens n'est pas tellement de dire qu'ils sont très contents et d'autre part Mauss rappelle que là aussi il y a un rapprochement possible avec certaines coutumes européennes qui sont à ma connaissance encore vivantes, notamment dans le sud de l'Europe. Alors je continue, le corps suit donc ce cortège avec une âme qu'il contient encore. Derrière, le pavillon provisoire où se trouve l'âme antérieurement extraite et que portent les conducteurs du deuil. Donc là, vous avez le début d'une séparation entre deux formes d'âme. L'une qui va donc en terre avec le corps, et l'autre donc qui quitte le corps à ce moment-là. Le corps, une fois déposé dans la fosse, qui a été l'objet d'une lustration, on sacrifie un coq blanc, à la fois pour écarter les esprits des ténèbres et pour faire entrer avec le sang l'âme du mort dans la tablette provisoire qui est ramenée processionnellement à la maison. Cette cérémonie est proprement le retour de l'âme. Ensuite, donc, De Groot procède donc à la description du tombeau. Et Mauss donc nous dit ceci. De Groot nous montre comment le mort, déposé au fond de sa maison funéraire, attire à lui un respect, un culte qui vont en se développant. Comment, pour lui présenter les offrandes qui servent à sa nourriture, un autel s'ajoute au tombeau. Comment les mausolées finissent par devenir, dans certains cas, par exemple le cas des tombes des empereurs, de véritables temples avec leurs fours, leurs chambres pour se déshabiller, leurs troupeaux qui fournissent le lait des offrandes, des garnisons pour protéger tout ce matériel. Donc là, vous en avez évidemment un exemple qui est devenu un point de visite touristique par excellence, dans le mausolée donc de l'empereur Qin, donc à Xi'an, où on voit qu'il s'est fait enterrer véritablement avec non seulement tout son entourage quotidien, mais aussi avec une représentation de son armée. Mais, et là c'est, arrive donc une phrase importante, mais tout cela suppose que le mort reste présent et vivant dans le tombeau. Cette vie, il faut l'assurer. Pour cela, une tablette commémorative portant le nom du mort fixe l'âme auprès de la tombe. Alors, ce que Mauss note, c'est le caractère familial de la sépulture. Le mort est enterré au milieu des siens. Aussi est-ce la grande préoccupation du Chinois, hein, c'est comme ça qu'on s'exprimait à l'époque, le Chinois, hein, aussi est-ce la grande préoccupation du Chinois qui émigre de se faire enterrer dans son village, dans sa famille. L'unité du clan et de la famille se poursuit au-delà de la mort. Et enfin, Mauss note justement cette étroite solidarité qui unit tous ces rites à la vie de la famille. L'accomplissement de tous les devoirs funéraires se répercute en succès, en bonheur dans la carrière des survivants. Si, par exemple, le mort est enterré un jour favorable à un endroit favorable où soufflent les vents fertilisants, toute la famille prospère. Et Mauss a cette notation tout à fait juste, c'est que les exagérations de ce système sont devenues une des plaies de la civilisation chinoise. Car à la moindre altération matérielle qui se produit dans le voisinage du mort, le bien-être de l'âme est compromis et c'est une catastrophe pour les vivants. Et Mauss a cette phrase tout à fait qui résume assez justement la chose et de manière assez humoristique. La vie des morts encombre celle des vivants. Et c'est là qu'on comprend justement la véhémence enfin, des réactions des intellectuels chinois modernes justement contre ce genre de pratique. Et nous terminerons aujourd'hui donc sur une observation de conclusion que fait Mauss à partir donc des travaux de Roth. Signalons enfin brièvement deux faits qui intéressent plutôt la sociologie de la famille. Comme les rites funéraires sont étroitement liés à la structure de la famille, ils l'expriment. Les degrés du deuil suivent les degrés de parenté. Et là, sur ce point, nous aurons l'occasion de revenir. Les degrés du deuil suivent les degrés de parenté. C'est ainsi que les règles du deuil manifestent le caractère patriarcal de cette organisation. Et en second lieu, on a souvent remarqué donc ce caractère patriarcal de l'organisation féodale et de l'administration en Chine. Nulle part il ne ressort mieux que dans les rites du deuil où le vassal porte le deuil de son maître et tous les sujets celui de l'empereur. Et on pourrait ajouter à cette observation de Marcel Mauss qui a bien noté justement la portée politique des rites de deuil en Chine, on pourrait ajouter à cela que le deuil dû par le vassal à son maître et par les sujets à l'empereur prennent pour modèle donc le deuil dû par le fils à son père hein, ou accessoirement à sa mère, hein. D'où l'importance donc des rites de la piété filiale sur lesquels donc nous reviendrons la semaine prochaine. Merci de votre attention. Merci. Thank you.